Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça va au niveau des micros? Parce qu'il y a toujours le... Oui? Moi, j'entends bien, donc c'est... Donc, merci de m'accueillir dans votre ville et dans votre médiathèque. Donc, vous êtes venu pour écouter plutôt une conférence sur la fragilité. Donc, c'est ce que je vais essayer de traiter avec vous. Ce qui m'intéresse aussi quand je me déplace, puisque j'interviens dans un certain nombre de lieux, j'étais à Lille il n'y a pas longtemps, puis je suis venu aussi à Lyon, mais je ne sais plus quand c'était, c'est de pouvoir échanger aussi avec vous, parce qu'on a tous des connaissances par rapport à ça. Si c'était par rapport aux mathématiques ou je ne sais quoi, on dirait les mathématiques, il y a des spécialistes. On me disait tout à l'heure, il y en a qui des conférenciers qui sont vraiment des grands spécialistes de la question. Donc, ce serait plus délicat. Mais sur la fragilité, je crois qu'on est tous un peu dans la même barque. Et donc, je vais vous dire un petit peu comment je vois les choses, quelle est mon analyse ou mon diagnostic de la question. Et puis ensuite, je crois que généralement, c'est autour d'une heure à peu près, on verra. Et puis ensuite, on a un échange ensemble sur éventuellement des demandes de précision ou des remarques ou des analyses que vous aimeriez pousser plus sur tel ou tel point. Donc, juste pour vous situer cette question de la fragilité, comment je suis venu à cette question-là, parce que je crois que c'est important. Je m'en suis un petit peu expliqué dans un petit bouquin justement qui a été mis là, « A-t-on encore le droit d'être fragile ?» Et c'était tout simplement une soirée qui était organisée à l'occasion de la prévention du suicide. Et on faisait une intervention à deux voix avec un psychiatre. Ça arrive assez souvent, il y a des demandes à deux voix, et j'aime bien aussi, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va dire, alors voilà, ça se croise. Et ce soir-là, on nous avait posé la question, a-t-on encore le droit d'être fragile? Et je me suis dit, ça c'est une question, je ne m'étais pas vraiment posé en ces termes-là. Et depuis, alors ça fait quelques années de cela, mais depuis, c'est incroyable le nombre de fois que j'ai pu entendre fragile, vulnérable. On sent que dans la société, ça devient presque une évidence de parler de cette question-là. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être quand même intéressant de travailler les questions de manière plus approfondie. Bon, il se trouve qu'au-delà de mon travail d'universitaire, je circule aussi beaucoup dans le monde associatif et également, j'avais aussi fait le choix de vivre dans un quartier populaire où j'ai vu aussi des personnes qui étaient marquées par ce que j'appellerais des processus de vulnérabilisation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, pour vous dire que c'est une réflexion de type philosophique, puisque je fais plutôt ce qu'on appelle de la philosophie sociale. Mais en même temps, c'est une philosophie qui essaie de prendre en compte toutes les questions contemporaines qui surgissent, donc à la fois sur l'existentiel et puis sur le social. J'appelle philosophie sociale le fait de s'intéresser à ce qu'on appelle les pathologies du social, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait que les individus ne parviennent pas à se réaliser et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour avancer par rapport à ça. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, et puis suite à ça, il s'est trouvé que j'ai été un peu embarqué par une productrice de France Culture qui voulait m'interviewer autour de ces questions-là. On a fait plusieurs émissions et ça avait donné ce petit livre qui est pratique pour caler l'étape bancale aussi, parce que c'est un tout petit livre. A-t-on encore le droit d'être fragile? Et donc voilà, je ne vais pas forcément présenter le livre parce que depuis j'ai avancé, hein, mais en tous les cas, je vais croiser avec comment je poursuis cette question-là aujourd'hui et puis quelles sont les évolutions de la question et qu'est-ce qui peut peut-être poser problème de cette récurrence du terme. Alors, je vous fais une sorte de petite introduction et puis comme je fais habituellement, je vous dirai les trois points que je vais développer lors de mon intervention. Ça va pour le son? Moi, je m'entends bien, donc, mais c'est important de s'entendre, hein, comme on dit. Donc, si vous m'entendez, c'est très bien. Donc, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que en règle générale, lorsque l'on entend dans le domaine au niveau des journalistes, au niveau des travailleurs sociaux, au niveau des gens qui sont parfois en grande précarité, on entend beaucoup ce mot vulnérabilité. Je me sens vulnérable, je me sens fragile. Bon, on sait que la dépression, c'est la maladie à la mode. Et donc, je me suis posé la question pourquoi finalement ce terme-là émergeait comme ça depuis quelques années et qu'est-ce qu'on disait à la place il y a une trentaine d'années. Ça m'intéressait parce que je me dis quelquefois le vocabulaire qu'on utilise est révélateur des représentations que l'on se fait de l'existence ou de la réalité sociale. Donc, j'ai creusé un peu et puis je me suis dit, bah, finalement, quand on regarde ou quand on lit un certain nombre d'ouvrages des années 70, on s'aperçoit que la manière dont on rendait compte de ce qu'on pourrait appeler la souffrance sociale, eh bien, c'était plus à partir d'éléments sociologiques. Et donc, quand les gens étaient dans des situations de souffrance, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, etc., eh bien, on arrivait à identifier d'une certaine façon quelqu'un qui était la cause de cette souffrance. Par exemple, on parlait en termes d'exploité, en termes d'exploiteur, ou alors on parlait en termes de dominant et de dominé, d'oppresseur, d'opprimé, etc. Donc ça fonctionnait par couple d'une certaine façon. Et lorsque l'on décrivait une situation sociale difficile qui faisait souffrir, on parlait moins en termes de fragilité, mais plutôt de sentiment d'injustice. On se sentait marqué par l'injustice dans la société ou même personnellement. Donc j'ai remarqué que progressivement que ce terme peut être a transformé notre perception de la réalité. Et je me suis intéressé au fait que très souvent, dès que maintenant il y a une forme de souffrance, souffrance sociale, souffrance psychique, etc., eh bien on le dit fragilité, là où il y a quelques années on utilisait d'autres termes. C'est intéressant de voir que on utilisait d'autres termes parce que on pouvait peut-être davantage identifier les causes de notre souffrance, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que les causes de la souffrance sont beaucoup plus, difficiles à identifier. Je pense par exemple quand on parle d'exclusion. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, bon, exploité, exploiteur, etc. Bon, c'était des catégories qui étaient utilisées par les sociologues, ou dominant, dominé. Mais on voyait au moins quelqu'un contre lequel on pouvait réagir. Alors, quand on dit, exclu, quand une personne dit je me sens exclu, il n'y a pas quelqu'un, un excluant, enfin, il n'y a pas vraiment de mot pour dire voilà, c'est à cause de tel ou tel groupe ou à cause de telle ou telle personne. Donc il y a une sorte de processus anonyme qui est encore beaucoup plus angoissant, si je puis dire, parce que justement on ne sait pas contre quoi faire contre ce que l'on ressent comme étant de l'ordre de la fragilité. Et donc on est passé. Pour reprendre les termes d'un sociologue qui s'appelle Boltanski, d'une topique de la dénonciation à une topique du sentiment. Alors, ça peut paraître un peu jargonnant comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, on fonctionnait en termes de dénonciation d'une situation qui pouvait faire souffrir. Et aujourd'hui, au contraire, on est plutôt sur le ressenti de la personne. Elle se sent mal, alors le sentiment d'être dépressif, de ne plus pouvoir donner de sens à sa vie, se sentir fragile dans le domaine du travail, etc. Et vous voyez que progressivement, le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire plus proche de la psychologie que de la sociologie. Si dans les années 70, encore une fois, c'était plutôt la lecture par les sciences sociales et par la sociologie, aujourd'hui, on psychologise d'une certaine manière. Alors, on va parler de harcèlement au travail, on va parler de dépression, on va parler de mal-être. Vous voyez, tout ce vocabulaire-là est symptomatique que ça renvoie moins à une catégorie qui ferait l'expérience d'une souffrance qu'à des individus eux-mêmes. D'où peut-être un sentiment beaucoup plus fort. On est moins dans la dénonciation de l'injustice que du côté du pathos, d'une certaine manière. Et je le dis pas de manière, c'est pas du tout péjoratif de dire cela. Et ce qui m'a peut-être un peu étonné, mais on y reviendra dans l'échange, vous me direz hein, si ça correspond un peu à votre ressenti aussi, c'est que finalement, ce mot fragilité est utilisé pour tout le monde, pour toute catégorie. Et peut-être que la difficulté, c'est que on va mettre sur le même plan des personnes qui sont marquées par la fragilité, ou on va dire la vulnérabilité. Je viendrai sur les nuances après du vocabulaire, parce qu'elles sont très âgées, et donc il y a une vulnérabilité plus importante, ou alors parce qu'elles ont un handicap de naissance. Et on va mettre sur le même plan ces situations-là avec des situations sociales du type au chômage depuis très longtemps, en grande fragilité liée à des conditions de travail très difficile, etc. Et le danger peut-être de mettre fragilité pour rendre compte de toutes les formes de souffrance, eh bien, c'est peut-être d'oublier que la question ne se pose pas simplement en termes d'éthique, mais aussi parfois en termes politiques. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en termes éthiques, on pose la question du rapport interpersonnel, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la personne qui souffre? Quand on pense en termes politiques, c'est quelles sont les structures qui font qu'il y a parfois un processus de vulnérabilisation qui se met en place par rapport à des personnes, un système économique, etc. Hein. Et on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes souffrent, par exemple, elles n'ont pas de travail. Mais contre qui se tourner? Contre un gouvernement qui a l'air d'être impuissant ou contre, voilà, on ne sait plus, ou contre le maire d'une ville? Non, voilà, finalement, on a l'impression que c'est un processus anonyme, économique, hein, un flash de publicité. Et donc, ce processus anonyme est d'autant plus stressant qu'on ne sait pas contre qui on peut agir et il y a un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment de fragilité se marie, en fait, d'une certaine façon, avec ce sentiment d'impuissance. Donc, je voudrais essayer de développer plusieurs choses dans mon intervention. Et la première, peut-être, c'est de dire, mais pourquoi soudain apparaissent comme ça les mots comme fragilité et vulnérabilité? D'où ça vient? Quelles sont les raisons qui font que on insiste beaucoup sur ce vocabulaire-là? Et c'est le vocabulaire qui vient spontanément. On va parler de personnes fragiles, par exemple. Je reviendrai sur cette expression. On va dire, je me sens plus vulnérable. J'étais étonné dans l'échange avec Francesca Piolo, qui était la productrice à France Culture, et comment elle disait, mais on se sent tous vulnérables. Et alors, elle voulait m'en faire dire un peu plus personnellement. Moi, je n'avais pas très envie, à vrai dire, de me dévoiler, parce que voilà, la radio, quand même, c'est pas. Ce qu'elle voulait dire, c'est que finalement, il y a ce sentiment, semble beaucoup plus fort qu'il y a quelques années. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que l'homme de Cro-Magnon, il y a très très longtemps, quand il voyait un bison qui lui fonçait dessus, il devait éprouver une certaine peur et aussi une fragilité par rapport à cette masse. Mais c'était sans doute vécu différemment. Mais aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette notion-là. Et ce que j'ai envie de souligner, c'est de dire, en fait, ce qui est nouveau, c'est moins la fragilité que l'hypervulnérabilité. Et j'aimerais dire quelles sont les raisons qui font que, me semble-t-il, nous avons un développement de l'hypervulnérabilité aujourd'hui. Alors ça, ce sera mon premier point. Et puis le deuxième point, ce sera de dire, mais finalement, on utilise un vocabulaire souvent sans trop être précis. Souvent, tout est un peu mis sur le même registre. Et peut-être qu'il faudrait distinguer la faillibilité, la faiblesse, la vulnérabilité. La fragilité. Je vais prendre ces quatre termes-là, faillibilité, faiblesse, vulnérabilité, fragilité. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les prendre, on va voir. Mais pour vous dire que peut-être si on les distingue, ça peut-être nous aider à mieux comprendre de quoi il est question. Et puis, troisième élément, j'aimerais donner quelques pistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est quelque chose de très grave, la fragilité? Est-ce qu'il faut au contraire essayer de vivre avec? Et peut-être que je pourrais dire que mon intuition de départ, c'est de vous dire que la fragilité, nous sommes tous fragiles. Ce qui est problématique, ce n'est pas tant la fragilité que l'hypervulnérabilité contemporaine. Et donc, c'est pour ça que j'essaierai de donner quelques éléments tout à l'heure, peut-être de points d'appui. Alors, piste, c'est peut-être beaucoup, mais enfin, en tous les cas, de points d'appui qui peuvent aider pour soi. Je crois, même si je ne fais pas de la psychologie, hein, qui peuvent aider pour soi, mais qui peuvent aider aussi dans un accompagnement de personnes qui tombent dans un processus de vulnérabilisation. Et quelquefois, on se sent impuissant, on dit comment faire. Bon, voilà, il peut peut-être y avoir des points d'attention, on va dire, peut-être que, ou des points d'appui, on verra un peu ce qu'il en est. Ça va pour hein, cette petit échauffement? Donc, en ce qui concerne le premier point sur la notion d'hypervulnérabilité, hein, j'appelle ça comme ça parce que je pense qu'elle est conjoncturelle, l'hypervulnérabilité, que c'est relativement récent, que d'ailleurs, si vous lisez la presse d'il y a quelques décennies, si vous regardez maintenant, on peut avoir sur Internet accès à des vidéos, on s'aperçoit que ce n'était pas le terme qui était utilisé le plus souvent. Donc, cette hypervulnérabilité, elle est liée. Alors, c'est toujours multifactoriel, hein, il y a plusieurs facteurs, mais je dirais globalement à ce qu'on peut appeler un processus de fragmentation de la réalité. un processus de fragmentation de la réalité, et je veux dire la réalité sociale. Quand on dit fragmenté, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est cassé, que c'est brisé, mais ça veut dire que c'est comme si quelqu'un, on avait construit un beau puzzle comme ça, avec une certaine harmonie, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dedans, et alors on ne s'y retrouve plus, surtout il y a des endroits du puzzle, c'est un ciel, etc., donc c'est plus difficile pour reconstruire. Donc il y a une sorte de morcellement ou de fragmentation à laquelle nous avons affaire. Ça veut dire, ça c'est un premier élément, ce morcellement. Ça veut dire aussi une perte de sens, une perte de sens qui fait que le problème aujourd'hui est devenu comment on fabrique du commun. On voit bien dans les sociétés, moi qui viens d'un coin, je ne suis pas très très loin de la Bretagne où on fait des crêpes, vous voyez, quand vous faites un peu rapidement votre pâte, il y a des grumeaux. Il y a des grumeaux dans la pâte et la pâte n'est pas lisse. Eh bien, je dirais que dans nos sociétés, il y a des grumeaux, la pâte n'est pas lisse. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfois un morcellement. Les individus sont comme des petits pois dans une boîte de petits pois, mais on a du mal à produire du commun, à se sentir appartenir à une même communauté de destin, celle d'un pays, celle d'un continent, etc. Et ça, évidemment, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que très souvent, c'est parce qu'on se sent porté par une communauté, que ce soit la famille, que ce soit un groupe social, ou que ce soit même appartenir à une nation avec des valeurs, etc. C'est parce qu'on se sent porté par une communauté qu'on se sent moins fragile, d'une certaine manière. Donc ça, cette dimension-là, elle est importante, me semble-t-il. Et puis, évidemment, l'autre point, le troisième point de cette fragmentation, c'est en termes de compréhension de soi. Il y a une crise de la compréhension de soi, et je le dis dans la compréhension de soi au sens individuel du terme, parce qu'on ne peut pas séparer cet individu de la société, et au sens sociétal du terme. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de personnes sont en souffrance en disant « mais qu'est-ce que c'est qu'être français ?» La société, voilà, la société a énormément évolué. Il y a du brassage, il y a aussi le numérique qui fait qu'on entend des choses à la radio, mais on ne comprend même pas le vocabulaire. Faut tweeter, faut cliquer, faut etc. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont en souffrance parce qu'elles ne reconnaissent plus le pays qu'elles ont connu. Et donc, il y a un brouillage dans le rapport à soi, hein, mais dans le rapport à soi qui est un soi personnel et aussi un soi collectif. Donc ça donne, je dirais, ce morcellement dont j'ai parlé. Et à l'intérieur de ce morcellement, il y a plusieurs dimensions qu'il convient de prendre en compte pour rendre compte plus précisément. Ce n'est pas exhaustif, mais je vais en prendre quelques-uns. La question de la temporalité, de rapport au temps. Je sais qu'il y a eu des conférences il n'y a pas très très longtemps sur le temps. La question de l'identité. La question du rapport à la communauté. Et la question des valeurs. Je vais reprendre ces quatre points-là qui sont des choses qui mettent en difficulté les individus aujourd'hui, qui font qu'on a ce sentiment d'être beaucoup plus vulnérable. Alors quand on dit plus par rapport à une période qui peut parfois être idéalisée, hein, mais bon, on y reviendra peut-être dans l'échange. Je commence par le premier point qui est la vulnérabilité au sens du temps, du rapport au temps. Eh bien, ce qui caractérise notre société, c'est quand même le sentiment d'une accélération extraordinaire. Tout va très, très vite. On est dans des logiques d'urgence, dans des logiques d'immédiateté, dans les logiques d'instantanéité, du tout et tout de suite. Je clique et j'obtiens ce que je veux. Et en même temps, on est sommé d'être réactif. Vous voyez comment il faut très rapidement répondre aux mails qu'on nous a envoyés le matin, même si on avait une réunion, on n'avait pas le temps de le voir, être censé répondre puisqu'on a le téléphone dans sa poche et donc on doit répondre, etc. Donc il y a une sorte de pression et d'accélération de la société qui fait que d'un côté, un certain nombre de personnes essaient de tenir le rythme et parfois flanchent. Vous voyez les cadres qui disent on est surbookés. Et d'un autre côté, des personnes qui sont un peu en dehors de ce monde-là. On avait il y a quelques années le film de Mathieu Kassovitz, La haine, des jeunes qui avaient qui étaient, comment dirais-je, au pied d'une cité, et puis qui toute la journée, alors on voyait, c'était filmé, puis quelques heures après c'était filmé, ils étaient à peu près au même endroit, et donc ce sentiment d'être en dehors du monde d'une certaine façon, parce que le monde va très très vite, et nous on regarde, on est un peu spectateur du monde. Donc ça c'est un premier aspect, ce rapport au temps qui fait que ça va très très vite, il faut suivre, et puis l'individu contemporain ne parvenant pas toujours à suivre, va flancher. Mais aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que du point de vue du temps, on a fonctionné pendant, je dirais, des siècles avec cette idée qu'on était porteur d'une tradition, qu'on devait reproduire ou s'inspirer de ceux qui nous avaient précédés. Et puis après, on s'est dit, mais non, ce qui est important, il faut faire un peu table rase des traditions, il faut au contraire innover, il faut créer, il faut inventer. Et donc, on a été plutôt du côté des utopies. Et il y avait des utopies qui portaient aussi les individus à l'intérieur de communautés ou de groupes politiques ou sociaux, etc., en disant, mais bon, c'est dur pour nous, mais ça irait beaucoup mieux demain. Et on le voit même dans la littérature du début du XXe siècle, comment la foi en la technicité, au développement des techniques, faisait qu'on disait, bon, c'est dur pour nous, mais alors nos enfants, ils auront une meilleure situation, ça ira beaucoup mieux, etc. Et comme dirait un sociologue, la trajectoire est brisée. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment que ce qui est passé est dépassé. Donc, ce n'est pas intéressant, c'est obsolète. Voyez votre ordinateur, vous l'achetez 3 ans après. Oh, ben, vous avez une vieille bécane, vaut mieux en changer plutôt que de le faire réparer. Donc, le passé est considéré comme dépassé et l'avenir est incertain. Hein, on ne croit pas forcément que ça ira mieux pour. Enfin, au moins dans les modes de représentation. Hein, je n'ai peut-être pas tout à fait ce regard-là, mais dans les modes de représentation. Et donc, il y a une concentration sur le présent, qui est une sorte de présent autarcique, c'est-à-dire un présent qui est coupé du passé. On ne se pense plus comme des héritiers de ceux qui nous ont précédés. Et puis, on s'inquiète aussi pour l'avenir. Alors, on pourra y revenir parce que je crois que ça a des incidences aussi dans la manière dont on veut transmettre des choses aux enfants, aux plus jeunes, etc. Si on est inquiet pour l'avenir, on transmet quelque chose et peut-être qu'on transmet un manque de confiance par rapport à ces jeunes qui vont aussi inventer, qui vont peut-être créer quelque chose de nouveau, qui sera peut-être mieux finalement. Hein, bon, voilà, mais je ne veux pas encore aller trop vite là-dessus. Donc, premier élément à souligner, un rapport au temps qui a changé et qui fait que quand on s'inscrivait dans un temps social qui était porteur d'espérance, qui était porteur d'un avenir ou d'un horizon d'attente, pour parler comme un philosophe, eh bien voilà, on se sentait beaucoup moins fragile que maintenant. Deuxième élément, la question du rapport aux identités. Là aussi, hein, je fais souvent référence à Internet. Vous avez une logique de réseau qui se met en place et une logique de réseau qui entre d'une certaine façon en concurrence avec d'autres types de logiques qu'on appelle les logiques narratives. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on a structuré nos identités par des récits, par le fait qu'on nous raconte des histoires. La grand-mère qui raconte à sa petite fille ou à son petit garçon comment ça se passait à l'époque, qui raconte des histoires, et même des histoires, des contes, etc. Ça, c'est fondamental. D'une part, ça structure l'attention de l'enfant, et on voit bien qu'il y a une crise au niveau de l'attention aujourd'hui, et ça structure aussi l'identité de l'enfant. Il croise son propre imaginaire avec les images qu'il voit lorsqu'on lui raconte des histoires, et donc ça contribue à structurer une identité. L'identité, elle se structure par le fait de raconter des histoires ou par le fait d'entendre des histoires. Hein. Or, aujourd'hui, l'identité va se construire différemment. Elle a tendance à se construire par des images, et notamment par ce que j'appelle un processus de déterritorialisation de la structuration de l'identité. Je ne voudrais pas être trop technique, mais c'est très simple. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, on va sur Internet. Je pense à des adolescents, par exemple, et on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre d'événements qui se sont passés et qui continuent à se passer. Et puis, finalement, ce qui est important, c'est moins le lieu où l'on vit, le territoire, mais c'est les images que l'on peut voir. Et ces images font qu'on va s'identifier à tel ou tel groupe, à telle ou telle catégorie, parce qu'on se sent, par exemple, pas reconnu sur le territoire, dans l'environnement dans lequel on est. Et donc, la structuration de l'identité va se faire à partir du numérique, ce que j'appelle des identités numériques ou iconiques, c'est-à-dire des identités qui se construisent à partir d'images que l'on voit. Et vous voyez, les images, c'est plus flou que la parole. La parole va permettre d'ancrer du sens. L'image, hein, je peux voir l'image de quelqu'un, je ne sais pas si c'est une manifestation, si c'est des gens qui sont en silence, si c'est des gens. J'ai besoin d'un ancrage, c'est-à-dire j'ai besoin de mots qui me précisent ce que c'est. Hein. Donc, quelquefois, eh bien, c'est au détriment du sens et de la structuration de l'individu. Et ça vient bien évidemment avec les nouvelles technologies. Donc, évolution des identités, on pourrait faire tout un travail sur comment les identités ont énormément bougé ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'habiter dans tel ou tel quartier? Il y a quelques années, on parlait en termes d'identité sociale, des classes sociales. Aujourd'hui, on est de quelle classe sociale? On parle de classe moyenne, mais c'est extrêmement large. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, la communauté. La communauté, c'est se sentir appartenir à un groupe social, Mais quand on est dans le flou un peu d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on ne sait pas trop quel est le groupe social auquel on appartient. Et donc, c'est une communauté de moins, si je puis dire. Alors, j'en viens justement sur la question de la communauté, parce que on a affaire à des crises des institutions. Ça fait déjà un certain nombre de temps. C'est-à-dire qu'on pourrait dire une crise de la confiance. Hein, que ce soit les églises, les partis politiques, etc. Enfin, toutes les institutions sont en crise. Il y a une crise de confiance. Même le sport, dans le domaine du sport, il y a quelques années, on disait, on pouvait admirer un cycliste. Aujourd'hui, on se dit le meilleur cycliste, c'est celui qui a pris les substances les plus efficaces, d'une certaine façon. Enfin, je pousse à l'extrême, mais pour vous dire que voilà, il y a une sorte de culture de la méfiance qui se développe aussi et qui peut être problématique. Et donc, d'une certaine manière, on a affaire à une société qui est marquée par une certaine forme d'individualisme, et en même temps avec cette idée que l'individualisme n'est pas un repli sur le privé, puisque sur le privé, c'est le privé parfois un lieu de violence. Hein. Rappelons-nous qu'en France, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours des coups de son conjoint. Donc il y a une violence de fait qui n'est pas que la violence dans les rues ou dans les quartiers, comme on dit quelquefois. Donc il y a une violence à ce niveau-là. Donc l'individualisme auquel nous avons affaire aujourd'hui est moins un repli sur le privé qu'un appui sur le privé. C'est-à-dire que les individus n'ont plus de point d'appui, soit une communauté qui les porte, soit des idéaux, politiques, sociaux, etc., soit une transcendance ou autre. Et donc, ils s'appuient sur leurs propres ressources et ils flanchent, d'où toute cette maladie à la mode qui a été bien décrite par certains sociologues. Je pense à Alain Ehrenberg, pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent, qui a montré justement la fatigue d'être soi, qui a montré la souffrance que pouvaient éprouver des individus qui recherchent leurs ressources uniquement en eux-mêmes. Et donc, on peut de points d'appui, notamment sur celui d'une communauté. On pourra y revenir sur tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur communautarisme, parce que je crois qu'on, dès qu'on entend communauté, on pense communautarisme en France, et souvent c'est peut-être plus complexe que ça. Et puis il y a aussi la question de la fragmentation des valeurs, à savoir que, contrairement à ce que l'on peut dire habituellement, nous sommes moins dans une société en perte de repères que dans une société marquée par le supermarché des repères. Et vous voyez, quand vous allez dans un supermarché et que vous voulez acheter, je ne sais pas, du shampoing, ben vous êtes 5 minutes à dire alors lequel je prends, parce qu'il y a tellement de subtilités, etc. Eh bien, vous prenez quelquefois dans un même quartier, quartier populaire ou pas, peu importe. Eh bien, les jeunes sont souvent confrontés à une multiplicité de repères. Et donc, la difficulté, c'est comment on choisit parmi ces repères, comme me disait, comme j'entendais quelquefois, le fils d'un monsieur qui était sur un quartier populaire, qui disait « Pourquoi tout ce qui m'est interdit, mes copains, ils ont le droit de le faire ?» Donc, vous voyez bien qu'il y a une tension. Lorsqu'il y avait consensus au niveau des familles, ce que j'appelais le commun tout à l'heure, eh bien, ça, les choses allaient de soi, d'une certaine façon, sur l'autorité, sur les interdits, etc. Lorsque l'on est, au contraire, dans une société de morcellement des repères, eh bien, c'est devenu plus compliqué. Et vous ajoutez à cela que la publicité, dont on parle pas suffisamment en termes de distance critique, eh bien, joue un rôle. Hein. Il y a eu des spécialistes qui ont montré que les gens qui travaillent dans le domaine de la publicité parfois disent qu'il faut cibler les familles et imposer les nouvelles valeurs que sont les valeurs que nous défendons au niveau du produit que l'on veut vendre. Hein. Donc il y a aussi une offensive de ce côté-là qui n'est pas négligée. Alors ça fait un panorama qui n'est pas hyper positif, hein, bien sûr, puisque comme je vous le disais, on diagnostique les pathologies du social. Toutes ces dimensions-là, ah, ça c'est connu, comme c'est du classique. Alors ça, c'est aussi une chose nouvelle, en fait, le rapport à la musique qui intervient. Alors je ne sais plus ce que c'était, j'ai eu Thierry Lafronde tout à l'heure dans le train. Alors ça, c'est déjà une période. Et donc voilà, pour vous dire, c'est tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'individu qui se sent fragile comme ça. Et d'une certaine manière, ça peut déculpabiliser aussi de dire ça, parce qu'à la fois, c'est un diagnostic de la société dans laquelle on se trouve, mais en même temps, c'est de dire que c'est pas seulement l'individu qui tout d'un coup se sent vulnérable et qu'est-ce que j'ai fait au monde pour... qu'est-ce que j'ai fait pour être... avec un fond musical. Oh, je pense qu'il faut le... non, allez-y. ça, c'est la difficulté avec les... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, monsieur, j'en prie. Et donc, voilà, toutes ces mutations, mais il faudrait beaucoup de temps pour développer, toutes ces mutations de la société, cette accélération, ce rapport à la communauté, se sentir appartenir ou pas, ce rapport à l'identité, cette accélération, ce rapport aux valeurs aussi, toutes ces dimensions-là font qu'il y a un sentiment d'hyper-vulnérabilité qui s'est particulièrement développé. Alors, j'en viens peut-être à la précision du vocabulaire, parce que une fois qu'on a dit cela, c'est peut-être intéressant de dire, mais finalement, on utilise les mots différemment, sans trop les distinguer, la vulnérabilité, la fragilité, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les distinguer? Et donc, je vais essayer. Bah oui, la technique, c'est souvent pas facile à manier. On en est tous là. Hein. Et donc, ce que je voudrais, c'est essayer de vous présenter les termes qui sont importants à distinguer pour essayer de rendre compte. Qu'est-ce qui peut être intéressant du point de vue de la fragilité et qu'est-ce qui peut, au contraire, être problématique et quels sont les points d'appui? Alors, je commence par la faillibilité. Puisque la faillibilité, c'est le fait de, bah oui, c'est la possibilité de faillir, c'est-à-dire de commettre une faute. Vous savez, quelquefois on dit nul est infaillible, etc. Donc c'est la possibilité de commettre une faute. Alors, poussé à l'extrême, on voit bien que dans certaines situations, on est embarqué par un groupe, et puis vous voyez, vous allez voir un match de foot, vous êtes avec d'autres, et puis à un moment donné, vous allez dire des choses pas très gentilles sur l'arbitre ou sur l'équipe, etc. Vous êtes embarqué comme ça. C'est une forme de faillibilité d'une certaine façon. Hein. On a vu des groupes, quelquefois, des groupes extrémistes qui étaient embarqués comme ça, et les personnes individuellement était gentille, mais pris dans le mouvement, eh bien, elle finissait par exercer de la violence ou autre. Donc la faillibilité, ça peut donner des choses extrêmes, comme on a vu dans des mouvements de foule, et on va agresser d'autres, etc., ou développer des formes de racisme. Mais ce peut être aussi, tout simplement, toute forme d'inattention à l'autre. C'est la faillibilité. On ne voit pas que la personne est en souffrance. On ne voit pas qu'elle essaie de cacher sa souffrance, par exemple, parce que la dépression ou la souffrance, ça ne se voit pas forcément. Ce n'est pas sur le visage des gens. Les gens essaient de tenir le coup, quelquefois. Hein. Et donc, il y a, dans un livre antérieur, j'avais travaillé sur la question de la plainte. Et en disant, on s'intéresse beaucoup, notamment quand j'intervenais auprès de travailleurs sociaux, on s'intéresse beaucoup au fait qu'il y a des gens qui se plaignent et qui sont en souffrance par rapport à ça. Mais la plainte, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que les gens déjà disent quelque chose, ils verbalisent ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est déjà un point d'appui qui est important. Mais ce qui est sans doute intéressant de souligner, c'est quand ils ne se plaignent pas et qu'on sent un peu quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une souffrance qui est non verbalisée, qui n'est pas dite, qui ne peut plus d'une certaine façon. Alors ça, c'est un premier élément. Donc quand on est dans l'indifférence, quand on est dans la maladresse, quand on est dans le fait d'être inattentif ou de ne pas faire attention à l'autre qui peut être en position de souffrance, eh bien on est dans la faillibilité d'une certaine façon. Premier élément. Ensuite, on peut parler de la fragilité. C'est vrai que ce terme-là, alors il faudrait reprendre l'étymologie et tout ça, bon, je vous ferai grâce de ça, mais ça renvoie quand même au fait, étymologiquement, d'être cassant, frêle, périssable, etc. Mais à l'origine, ou très souvent pendant des années, on parlait de la fragilité plutôt pour les objets. Vous voyez, sur les caisses là, avec de la vaisselle, etc., attention, fragile. Et puis, en quelques années, on est arrivé à parler de la fragilité. Au point que, quelquefois, on va dire, ce sont des personnes fragiles. Moi, j'entends ça beaucoup parce que je circule pas mal en France et même à l'étranger, parce que je suis allé dans différents pays dernièrement autour de ce thème-là, que ce soit en Belgique ou en Roumanie, par exemple. Et on voit bien que très souvent, le terme « personne fragile ». Et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que quand on dit personne fragile, c'est comme si on disait personne mortelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, nous sommes tous fragiles. Nous sommes tous fragiles. Le bébé qui naît, il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne des soins, qu'on le prenne dans les bras, etc. Autrement, il ne peut pas vivre. Et je ne sais pas, dès qu'on est un petit peu, on a un petit rhume, on est un peu malade, etc., on voit bien qu'on est des êtres fragiles. Donc la fragilité n'est pas une malédiction, la fragilité fait partie de notre condition humaine. Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes mortels, il y a la finitude, nous sommes susceptibles d'être malades, etc. Donc la fragilité fait partie de la condition humaine. Mais seulement, il peut y avoir à certains moments, dans l'existence, un processus que j'appelle de vulnérabilisation, qui fait qu'on va éprouver avec beaucoup plus de force cette fragilité. Et cette fragilité qui nous est commune va être plus aiguë lorsqu'elle va entrer sous la forme de ce que j'appelle la vulnérabilité cette fois-ci. Alors l'étymologie, moi j'aime beaucoup, parce que je viens des sciences du langage, j'aime beaucoup faire référence, mais je n'abuserai pas ici, mais vulnérare, c'est la blessure. C'est la blessure. Et ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, quand on parle de vulnérabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une blessure. D'une blessure. Alors, on va utiliser, à partir dans la littérature un peu spécialisée, on va utiliser dans les années 70 ce terme-là, vulnérabilité. Et puis, dans les années 80, plutôt en psychiatrie, en psychologie. Et le terme va apparaître en même temps que la résilience. Alors c'est intéressant parce que la résilience au départ c'était par rapport aux matériaux, hein, pour savoir comment pouvait résister un matériau quand on lui donnait des coups. Et puis après la résilience a été bien popularisée, vous connaissez ça par des gens comme Boris Cyrulnik en disant comment une personne qui a pu vivre des périodes très difficiles, voire des traumatismes d'enfance, peut quand même à un moment donné rebondir. Il n'y a pas une fatalité, ce serait tracé une fois pour toutes. Et bon, c'est assez optimiste en même temps, hein, cette notion-là. Et donc, les deux termes vont apparaître ensemble. Et puis, progressivement, évidemment, on va développer beaucoup plus de... beaucoup plus dans le vocabulaire cette idée-là. Et j'appelle donc vulnérabilité le fait que ce soit quelque chose qui arrive dans l'histoire. Hein, c'est-à-dire, la fragilité, c'est quelque chose qui fait partie de notre condition, mais je me sens vulnérable parce qu'il m'arrive quelque chose dans mon histoire. Il m'arrive quelque chose dans mon histoire. Alors, vous connaissez sans doute la formule de Freud, hein, une offense vécue il y a 30 ans, dès lors qu'elle s'est frayée un chemin vers les sources affectives, continue à agir comme si elle était actuelle. Ça veut dire que quelquefois, ce n'est pas forcément conscient. J'ai vu des personnes se mettre à pleurer parce que ça renvoyait à des événements dans un cadre précis, ça renvoyait à des événements très profonds de leur enfance et ils arrivaient à faire le lien. Et puis d'autres moments en disant, mais je suis complètement bouleversé, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'évidemment, on n'est pas transparent à soi-même, on n'est pas complètement lucide sur pourquoi on souffre. C'est sans doute parfois d'ailleurs dans les situations de dépression que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on est comme ça. On n'a pas un accès direct à soi. On se connaît, mais un peu, mais on ne se connaît jamais de manière transparente, en fait. Hein. Donc, il y a une distinction à faire, je dirais, entre la fragilité qui renvoie à toute notre humanité et puis des processus de vulnérabilisation qui peuvent arriver par la pauvreté, par une séparation, par des déménagements où on a perdu tous ses repères amicaux et donc on n'a plus de communauté parce que les amis, c'est aussi la communauté qui nous porte et qu'à un moment donné, voilà, on flanche, on n'a plus le ressort ou une difficulté dans le domaine du travail. À un moment donné, voilà, il y a des philosophes qui sont intéressés à ça. Je pense que vous connaissez par exemple des gens comme Gilles Deleuze qui parlent des lignes de fuite. Et ça m'intéresse beaucoup aussi parce qu'il y a les lignes de fuite mortifères et les lignes de fuite créatrices. Ligne de fuite mortifère, c'est à un moment donné, la personne n'en peut plus et elle craque. Alors ça peut aller au pire, bien évidemment, comme vous pouvez le deviner. Et il y a les lignes de fuite créatrices et à un moment donné, c'est plus possible avec mon travail. Donc soit je vais voir avec d'autres comment on peut rencontrer le chef de service parce qu'on sera plus fort si on y va à d'autres. Soit au contraire, je cherche les petites annonces et je me dis je vais partir de mon travail. Mais ligne de fuite créatrice, c'est quand on essaie de trouver autre chose pour pouvoir sauver son existence d'une certaine manière. Donc, distinguer ces deux dimensions-là, quand on est fragile de par notre condition, on est vulnérable de par une situation qui fait qu'on est marqué par une blessure et que cette blessure peut trouver écho avec d'autres blessures et à un moment donné, voilà, on flanche parce qu'on n'en peut plus et on se sent très vulnérable. Et là, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément autant la fragilité, j'y reviendrai, peut-être quelque chose d'un point d'appui intéressant, autant la vulnérabilité peut être problématique parce que dans ces cas-là, on rase les murs, on n'ose plus intervenir, on pense qu'on se mésestime, on pense qu'on n'est pas intéressant, etc. Et ça peut être une dégringolade. Et puis il y a aussi la faiblesse. Alors la faiblesse, évidemment, généralement, on va dire, elle est encore faible, une personne qui sort de maladie et puis qui revient progressivement, bon, de longue maladie, et puis on dit qu'elle est encore faible. Mais moi, je l'entends un petit peu autrement, cette faiblesse-là, je l'entends plutôt au sens psychologique du terme. Et il y a une formule que j'aime bien d'un philosophe, je peux le citer, hein, c'est Nietzsche. Et on ne l'attend pas sur ce terrain-là, justement. Il dit, j'ai trouvé la force là où on ne la soupçonne pas, chez des gens doux, simples et obligeants, sans aucun penchant à la domination. Et inversement, le goût de dominer m'est toujours apparu comme un signe de faiblesse intime. C'est intéressant parce qu'il renverse d'une certaine façon le processus. La faiblesse, elle n'est pas forcément là où on croit. Alors moi, je l'entends plutôt, comme je vous le disais, au sens psychologique du terme, c'est-à-dire l'impossibilité de se situer dans le champ conflictuel. Ça, c'est un problème. On le voit quelquefois, une mère ou un père avec ses enfants. On n'ose pas entrer en conflit parce qu'on dit l'enfant va plus m'aimer, etc. Hein? Donc l'impossibilité d'entrer en conflit, y compris dans une scène entre citoyens, etc. Ça s'est pas mal développé ces dernières années. L'assujettissement au regard de l'autre, on pourra y revenir dans l'échange parce que ça, c'est des choses qui font que le regard de l'autre est tellement prégnant, on sent qu'il va nous juger, on sent qu'il va nous cataloguer et alors on n'ose plus parler, on n'ose plus dire les choses, etc. Donc c'est un assujettissement qui enferme dans une forme de faiblesse. Et puis aussi le souci pathologique de reconnaissance. Il faut de la reconnaissance pour advenir comme individu humain. Mais en même temps, quand on est obsédé par la reconnaissance, au bout d'un moment, on est finalement assujetti au regard et au désir de l'autre. Donc voilà, ça, ce sont des formes de faiblesse. Donc vous voyez, ces différents domaines, je regarde quand même l'heure hein, pour ne pas vous affliger quand même toute la soirée, ma parole, mais qu'on puisse échanger ensuite. Hein, je fais attention. Hein. Et donc, ce qui me paraît intéressant, peut-être que j'y viendrai dans l'échange, parce qu'il se trouve que je croise beaucoup de personnes. Différentes formes de processus de vulnérabilisation ou de vulnérabilité, notamment des discussions avec des personnes qui sont des ouvriers qui travaillent en ESAT, vous savez, des entreprises hein, voilà, qui sont un peu adaptées, comme on dit, eh bien, m'ont beaucoup enseigné sur cette question-là. C'est-à-dire que quelquefois, quand on est en proximité avec des personnes qui vivent quelque chose de l'ordre d'une fragilité, au sens large du terme, hein, on va dire, ou vulnérabilité plus précisément au sens où je l'ai défini, eh bien, on a tendance à ne voir que cette dimension-là. Or, le danger, c'est de ne pas voir que quelquefois des personnes peuvent très bien être dans un processus de vulnérabilisation et en même temps développer une certaine force. Des compétences, des capacités, etc. Et dans un accompagnement ou dans un regard que qu'on porte sur l'autre, c'est important de ne pas voir toujours l'autre comme étant quelqu'un de vulnérable. Je prends un exemple tout simple parce que à l'occasion d'un colloque à Namur, je passe le matin devant quelqu'un qui était en train de faire la manche. Il faisait pas très très chaud ce matin-là. Et il commence à vouloir discuter. J'ai compris après qu'il faisait la manche, mais au départ, non. Et je me disais, il est assis, il va chercher la personne pour lui dire, alors il fait beau aujourd'hui, ou il y a du soleil, même s'il faisait froid, etc. Et je me disais, quelle force! Je me disais, quelle force quand même. Et c'est pour ça que quelquefois, la fragilité, elle n'est pas, ou la vulnérabilité, elle n'est pas forcément où on croit. Des personnes peuvent être dans un processus de vulnérabilisation. Par exemple, une mère seule avec ses enfants, il n'y a pas trop de chauffage, etc. C'est compliqué financièrement et tout. Et avoir une force extraordinaire pour dire on se lève, les enfants, je vous emmène à l'école, etc. Donc voilà, c'est aussi le regard que l'on porte sur ceux qui sont peut-être pas tant vulnérables que cela, mais qui sont dans un processus de vulnérabilisation. Et donc, j'essaie de souligner, notamment bon, dans un certain nombre de travaux que je fais, cette idée que derrière la faillibilité, par exemple, il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la capacité de pouvoir prendre des responsabilités. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens failli, mais en même temps, je sens que je peux avoir des capacités. Hein. De même qu'on peut aussi prendre conscience que l'on est fragile. Eh bien, justement, ça mobilise une capacité ou une puissance de solidarité. C'est-à-dire que je sais que je ne pourrais pas faire tout seul. Et donc, d'une certaine façon, parce qu'on se sent fragile, la solidarité n'est pas optionnelle. Je vais accepter d'aller demander à l'autre son aide à certains moments. Je pense à Alexandre Jolien, que vous connaissez peut-être, maintenant il est très populaire, qui est un philosophe qui est en situation de handicap. On en parlait il n'y a pas longtemps, j'étais à un colloque sur la loi du 11 février 2005, là, sur la place des handicapés dans la société. Et Alexandre Jolien raconte dans un de ses livres qu'un jour, il essaie d'ouvrir une boîte de conserve, et puis il n'en peut plus, il n'arrive pas à l'ouvrir, donc il finit par l'acheter contre le mur. La boîte, elle est complètement fracassée. Et puis au bout d'un moment de découragement, il va voir son voisin. Puis il dit, je suis désolé de vous déranger. Et finalement, il dit, c'est devenu un très bon ami. Et donc, j'ai gagné un ami. Et puis finalement, en acceptant aussi de demander à l'autre. Alors, ça veut dire aussi que on nous ment d'une certaine façon quand on développe une conception de l'humain du côté de l'autonomie, parce que nous ne sommes jamais complètement autonomes. Hein, pour venir ici, j'avais quelqu'un qui conduisait le train, il y a quelqu'un qui a installé la salle, le micro, etc. Et c'est tout le temps comme ça. On est interdépendant, sauf que quelquefois c'est caché. Il y a des personnes qui après vont nettoyer la salle, par exemple, ou la ranger, etc., qu'on ne voit pas, qui sont les invisibles, mais d'une certaine façon qui permettent notre autonomie. Donc nous sommes interdépendants, et cette interdépendance, justement, elle est à la fois notre fragilité, et quand on y consent, dans cette fragilité, on peut y trouver une certaine force. J'en viens dans les... Oui, il me reste 10 minutes à peu près, c'est ça? Je suis à peu près dans les... C'est ça, 10 minutes? Donc, j'en viens, et je repréciserai peut-être dans l'échange, hein, si c'est un peu rapide. Parce qu'il faudrait quelques heures hein, pour déblayer un peu le terrain, bien sûr. J'en viens sur les points d'appui ou les points de repère ou qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela. Bon, d'abord, il y a un premier élément, c'est on est dans une société quand même qui est très marquée par les logiques de performance, de compétition, et il faut, dans tous les domaines, être à la hauteur. Et ça devient très prégnant sur les individus. Et je crois que nous avons sans doute à penser une sorte d'éthique du regard. J'ai un ami roumain qui a d'ailleurs publié il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle L'éthique du regard. Et je crois que ça me paraît très intéressant, c'est-à-dire que quel regard on porte sur ceux qui sont le plus susceptibles d'être marqués par le processus de vulnérabilisation dans la société. Alors les gens qui sont en situation de précarité, les personnes qui ont un handicap d'une manière ou d'une autre, les personnes âgées, les enfants, etc. Et qu'est-ce qui caractérise, par exemple, souvent ces personnes-là? C'est la lenteur au regard de notre logique. C'est-à-dire qu'il faut aller toujours très très vite, et on voit bien que par rapport à l'enfant, eh bien, le matin, il faut se dépêcher, l'adulte veut aller au travail, et puis l'enfant, il prend son temps, il continue à jouer, etc. Que la personne âgée, elle dit, ben, je marche au ralenti. Que même l'étranger... Parce que l'étranger peut être aussi dans un processus de vulnérabilité. Il est un peu perdu dans la société qui n'est pas la sienne, donc il n'a pas les mêmes codes, donc il est beaucoup plus lent, etc. Et que si on porte un autre regard sur ces personnes qui éprouvent d'une certaine façon davantage la vulnérabilité, on change aussi les paramètres et les valeurs, c'est-à-dire qu'on vient enrichir notre société d'espaces de ralentissement. C'est-à-dire que finalement, notre société va très très vite et que l'urgence, non seulement c'est anxiogène pour les individus, mais c'est problématique pour la démocratie. Une démocratie a besoin de recouper les informations, d'espaces de parole, d'échanges, etc. Et donc d'espaces de ralentissement pour s'approprier les savoirs et les connaissances et pour pouvoir échanger. Donc nous avons besoin aussi de ces personnes qui vivent sous le mode un autre rapport au temps. Parce qu'elles viennent apporter quelque chose. Et je crois que c'est important de se dire aussi que des personnes qui sont plus vulnérables ou susceptibles d'être plus vulnérables ne sont pas simplement des personnes qu'on va essayer d'aider, dont on veut se rendre solidaire, mais elles vont apporter, il faut regarder qu'elles peuvent apporter aussi quelque chose à la société, même si elles semblent en grande difficulté. Notre société est aussi un peu en grande difficulté, j'aurais envie de dire. Ensuite, peut-être... Oui, il faut que peut-être que je m'auto-censure. Quelles ressources pour avancer par rapport aux différentes expériences que l'on peut faire de la vulnérabilité? Il y a peut-être essayer de valoriser les capacités et les énergies qui sont chez l'autre et en soi aussi. Aller rechercher quelles sont mes capacités, sur quoi j'ai envie à quoi je carbure. Hein, je dis ça quelquefois aux collègues en disant faut qu'on repère à quoi on carbure, parce qu'à partir de là, on aura l'énergie et on avancera. Et évidemment, je dirais, il y a plusieurs points qui peuvent aider. D'abord, une personne qui est marquée par la grande vulnérabilité peut être complètement isolée. On voit qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur la notion d'isolement, sur le fait d'être seul. Donc, permettre de rencontrer d'autres personnes, ça c'est fondamental. On carbure à la relation. C'était ce que disait Primo Levi à la fin de la trêve, vous savez, sortant des camps, il disait: j'avais oublié même la faim et la fatigue, tellement le besoin de relations humaines était vital, parce qu'il avait rencontré des gens à qui il pouvait s'exprimer, etc. Et beaucoup de personnes souffrent justement de l'impossibilité de dire et de parler. Donc, rencontrer d'autres dans des espaces gratuits, si je puis dire, ça c'est fondamental. Ensuite, on a besoin d'imaginaires émancipateurs. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que je me souviens d'un groupe sur un quartier quand j'étais dans le sud de la France pour une intervention, on m'avait rapporté cela, des gens qui faisaient des ateliers d'écriture et qui, on leur disait, voilà, ils étaient en précarité, vous écrivez ce qui vous plaît, etc. Et un jour, on leur avait demandé d'écrire: qu'est-ce que vous aimeriez? Je ne sais pas, une fée apparaît, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quels seraient vos rêves, finalement? Et là, les personnes n'avaient rien écrit. C'était la page blanche. Pourquoi? Parce qu'ils n'imaginaient pas que leur vie puisse être ailleurs. Et donc, on a besoin aujourd'hui de ce que j'appelle des passeurs d'imaginaire, c'est-à-dire que ce soit du côté de politiques, qui soient bienveillants, que ce soit des gens qui soient dans le milieu associatif, que ce soit des travailleurs sociaux, qui aident les personnes qui sont dans un processus de vulnérabilisation à montrer qu'elles ont des compétences, qu'elles ont des capacités, et à les aider à imaginer que leur vie pourrait être autrement, hein, sans les faire rêver de l'impossible, mais que leur vie pourrait être autrement. Et puis, il y a aussi cette idée d'essayer de permettre à la personne d'avoir un peu prise sur son existence. Qu'est-ce qui fait souffrir et qu'est-ce qui fait qu'on se sent vulnérable? C'est le sentiment qu'on n'a plus prise sur son existence. Dans l'éducation de ses enfants, dans le domaine du professionnel, à différents niveaux. Et il me semble intéressant de creuser ces dimensions-là. Si je reprends les trois points par rapport à la rencontre des personnes imaginaires et puis avoir prise sur son existence, je pourrais dire que dans un premier temps, il est intéressant de développer ce que j'appelle des espaces de non-identification. Hein, j'étais il n'y a pas très longtemps avec une association qui travaille avec qui s'appelle Habitat Humanisme, je crois, ou Humanisme et Habitat. Je confonds, j'intervertis à chaque fois. On échangeait autour de ces espaces de non-identification. C'est-à-dire que très souvent dans notre société, lorsque l'on se retrouve dans un groupe humain, il faut se présenter. Or, il y a des personnes qui lorsqu'elles se présentent, disent nécessairement quelque chose de négatif sur elles-mêmes, parce que voilà, je suis en précarité depuis tant d'années, j'ai telle situation familiale, etc. Et donc, quand elles se présentent, elles sont tenues en quelque sorte de dire quelque chose qui les fait souffrir. Or, on peut très bien se retrouver dans un groupe et faire en sorte que ce groupe soit un espace de non-identification, c'est-à-dire que les personnes puissent se présenter à partir de leur passion. Qu'est-ce qui me passionne? Et après, on fait des choses ensemble. Donc enfin, on pourrait y revenir. J'ai des exemples concrets, notamment d'une psychiatre du côté de Besançon qui a créé un espace où, et elle a fait un livre à partir de ça. Je l'avais fait écrire pour un article dans une revue, et ça s'appelle le livre On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux. Et dans cet espace-là, c'est Marie-Noëlle Besançon, dans cet espace-là, on ne sait pas qui est soignant, qui est infirmière, qui est bien portant, qu'est-ce qu'être bien portant, et qui est à une lourde maladie psychique, parce que c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu médical, c'est un lieu de vie. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de rechercher des lieux où on ne s'identifie pas en tant que statut social, mais plutôt en tant que personne, tout simplement. Du point de vue de l'imaginaire, je crois qu'il est important de développer une éthique de la bienveillance. Le terme commence à venir, il est peut-être à la crème. J'ai une doctorante qui travaille sur ces questions-là, et je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, ben voilà, quel regard positif on porte sur l'autre et aussi sur soi, parce que la bienveillance est dans les deux sens. Et la difficulté quelquefois des relations humaines chez certaines personnes, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à s'aimer elles-mêmes, et donc elles ont toute une agressivité par rapport aux autres. Et enfin, sur le dernier point, sur la question d'avoir pris sur son existence, qui me semble intéressant, c'est de permettre aux personnes d'être un peu actrices de leur vie. C'est-à-dire que tout est dans la formule de la personne qui vient au restaurant du cœur et qui dit: j'aimerais tellement être du côté de ceux qui donnent. voyez, donc il y a un moment donné où on est dans une position de dissymétrie et on souffre d'être toujours du côté de celui qui reçoit. Et donc permettre à une personne, je ne sais pas, de s'occuper d'un animal domestique, de pouvoir avoir passé du temps à raconter une histoire avec ses enfants, de retrouver un peu prise sur leur éducation, etc. Tout ce qui va permettre d'être du côté de l'actif va permettre aux personnes de sortir de ce processus d'hypervulnérabilité et d'assumer une certaine forme de fragilité. Mais vous voyez, je nuance un peu sur ce vocabulaire-là. Je regarde, voilà, je suis presque dans les arrêts de jeu, donc je ne vais pas être trop long. Dans les points d'appui, et je vais terminer sur ce point, dans les points d'appui, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est peut-être de regarder ce que j'appelle les ions positifs. Alors les ions positifs, c'est la responsabilisation, c'est l'action, c'est la création, et c'est la réflexion. Ces trois pôles-là, ces trois dimensions-là, évidemment, qu'il faudrait développer plus longuement, sont des points qui permettent à la personne de ne plus être simplement du côté du subir. C'est pour soi comme c'est pour l'autre, d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que je pense à l'échange que j'ai pu avoir à l'occasion d'un livre que j'avais publié il y a quelques années avec quelqu'un qui était dans un quartier populaire et qui avait un rapport à l'alcool depuis des années qui était désastreux. Et qui disait, voilà, j'ai pas vu mes enfants grandir, c'était très très dur, et qui disait, grâce à une association, il était sorti progressivement de cette souffrance, de cette difficulté, et il disait, un jour, on m'a proposé, est-ce que tu accepterais de prendre une responsabilité? Et il dit, c'est la première fois qu'on me faisait confiance. Donc voilà. Comment on reconstruit par des choses toutes simples d'une parole qui est donnée à une personne en lui disant « Est-ce que tu accepterais de prendre une responsabilité ?» Pareil pour l'action. L'action, ce n'est pas simplement une démarche, c'est le fait de se retrouver avec d'autres pour faire quelque chose, donc avoir prise sur son existence. La réflexion, c'est parce qu'on met à distance sa propre situation, on l'analyse, et déjà quand on met des mots sur ce qui fait souffrir, on commence à donner du sens. Et puis enfin, la création, eh bien oui, on voit très bien qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des grandes situations, par exemple de fragilité, enfin de vulnérabilité liée à des tas de choses, de situations familiales ou de situations sociales, mais qui ont des capacités de raconter des histoires, de jouer de la musique, etc. Et donc de s'appuyer sur ce pôle créatif. Et je terminerai en disant, il y a une triangulaire qui est intéressante, c'est le sens, le désir et la communication. Qu'est-ce que je mobilise du côté du sens alors que j'ai l'impression de vivre des choses insignifiantes? Comment je mobilise mon désir? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me donne envie va me donner de l'énergie? Et puis comment j'entre en relation avec les autres ou comment je vais permettre à l'autre d'entrer en relation pour pouvoir retrouver du goût à l'existence. Et vous voyez, comme disent certains spécialistes, que ces trois dimensions-là, quand elles sont atteintes, se donnent la dépression. Donc c'est en prenant à l'envers d'une certaine façon, en s'appuyant sur ce qui fait sens, sur le désir et sur la communication, qu'on retrouve du goût à l'existence et qu'on, d'une certaine façon, sort de l'hypervulnérabilité pour goûter à une forme de fragilité, je dirais, qui est assumée parce que justement on prend conscience que l'interdépendance, que la solidarité n'est plus optionnelle, mais elle fait partie de notre condition humaine. Voilà, merci. Bon, j'ai peut-être accéléré progressivement le processus. Comme nous avions peu de temps, mais si vous avez envie qu'on échange ou de faire part de vos propres analyses pour compléter aussi ce qui est une présentation rapide, bien évidemment, c'est avec plaisir. Hein. Alors, il n'y a pas de micro, je crois. Hein, y a pas de... Mais on peut parler quand même. Toujours la première question, donc n'hésitez pas à poser la deuxième question, ça sera beaucoup plus... Voilà, la deuxième question. Ouais. Enfin, question ou remarque, hein, parce qu'on cherche ensemble, bien évidemment. Hein. De culpabilité? Oui, c'est aussi une caractéristique, c'est-à-dire que voici quelques années, il y avait le sentiment de vivre une injustice, peut-être collectivement, c'est-à-dire que nous vivons une injustice et nous allons nous organiser avec d'autres pour agir contre cette injustice. Et aujourd'hui, c'est plutôt je vis du harcèlement au travail ou je vis une difficulté et donc c'est sans doute de ma faute. Et il y a des processus qui sont assez étonnants, c'est qu'on voit quelquefois dans certaines entreprises la mise en place de structures de travail qui sont anxiogènes. Et après, on propose des formations pour travailler sur comment on gère le stress au travail. Et là, c'est typique, c'est-à-dire qu'on ne pense plus les choses collectivement et comment des structures sont anxiogènes ou au contraire des structures de travail permettent aux gens de vraiment de donner d'avoir du goût, de donner sens à ce qu'ils font. Mais au contraire, on va être du côté de l'individu en disant, bon, si la personne se sent stressée, ce n'est pas lié à l'organisation, c'est parce qu'elle gère mal son stress et donc il faut qu'elle fasse. Donc c'est pour ça que je disais, on est passé d'une lecture un peu sociologisante à une lecture plus psychologisante. Mais il y a un certain nombre d'analyses qui vont un peu dans ce sens. Cela me semble-t-il. C'est pour ça que la notion de responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, là, elle évidemment, les travailleurs sociaux, bien peut-être parmi vous, pourraient réagir au sens où c'est une responsabilité qui doit permettre à la personne de s'épanouir, de trouver sa place, de pouvoir émerger comme individu, et non pas une responsabilité qui accable en disant si tu as tel ou tel problème, c'est de ta faute en quelque sorte. Et là, on revient dans un processus de culpabilisation en fait. Il peut y avoir des temps de silence. Hein, oui, j'en prie. Oui, merci. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est à la fois par rapport au commun et puis par rapport au fait que, d'une certaine façon, on se pose ces questions-là, mais chacun a sa vérité là-dessus. Hein. J'ai entendu des résultats après des examens du bac. J'écoute toujours, même si j'enseigne pas au lycée, mais ça m'intéresse. Et des jeunes qui disaient, oui, par rapport à Hitler, bah, Hitler, oui, il y en a qui sont d'accord avec ce qu'a fait Hitler, etc. Mais après tout, chacun, moi, je trouve que ça va pas, mais chacun pense ce qu'il veut. Il y a une espèce de relativisme aussi, en fait. Hein. Alors, c'est pour ça que la question de l'universel est importante, de tendre vers l'universel, même si, évidemment, c'est pas forcément, il n'est pas forcément présupposé, cet universel, mais on le cherche, quoi, en fait. Hein. Voit les évolutions aussi. Alors, dans le fond, oui. Ouais.
Oui,
positivement. Oui, tout à fait. Hein. Alors ça, c'est une des difficultés. C'est-à-dire qu'on dit quelquefois la technique est neutre, mais en même temps, on voit bien que la technique fait que si on a un smartphone dans la poche et puis on est en déplacement, etc., on est censé être joignable à tout moment. Et donc, voilà. Hein. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de se donner des codes à l'intérieur, par exemple, de l'entreprise, parce que c'est différent après dans Ami, etc., mais à l'intérieur de l'entreprise, au sens où on ne doit pas forcément toujours être tenu de répondre à tout moment. Je prends un exemple très, très simple. Parfois, des collègues m'envoient des courriels le dimanche. C'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps. Alors, j'ai sur moi des articles, et notamment un article sur les luttes sociales qu'il y a pu y avoir pour obtenir le dimanche. Parce qu'on a une perte de mémoire à ce niveau-là quelquefois. C'est-à-dire comment il y a des gens qui ont presque laissé leur vie pour qu'il puisse y avoir une journée de repos hebdomadaire. Et donc, je l'envoie en même temps, le lendemain, évidemment, pas le dimanche. Et puis, je dis, j'envoie le message le lundi, je dis, je réponds à ta question, et puis j'en profite pour t'envoyer un petit courriel, un petit article qui est intéressant aussi sur comment des gens, avant nous, hein, ont essayé de s'organiser pour qu'on puisse avoir des jours de repos, que c'est important aussi qu'on puisse vivre, avoir une vie de famille, et sans être toujours 24 heures sur 24 dans le champ du travail. Donc, il y a certainement des formes de résistance à avoir de cet ordre-là, en fait. Hein. Mais quand je disais lenteur tout à l'heure, hein, vous parliez de votre lenteur peut-être, au contraire, je pense que on a besoin d'espace de ralentissement quand il y a des décisions qui sont prises politiquement très très vite, on voit bien ce que ça peut donner. Il n'y a pas de démocratie sans espace de ralentissement, c'est-à-dire que sans que les gens discutent, sans qu'ils recoupent les informations. Et donc, il faut absolument ne pas céder. Hein. C'est des gens comme Paul Virilio qui ont beaucoup insisté sur la mise en danger de la société démocratique aujourd'hui à cause justement de ces logiques d'accélération. Donc, il ne faut pas diaboliser, je dirais, les nouvelles technologies qui sont si formidables. On est en contact avec plein de gens dans le monde et tout, grâce à ça régulièrement. Mais en même temps, faire attention de ce que ça induit, parce qu'on voit bien que justement, cette évolution de la question de la vulnérabilité ces dernières années, elle est quand même beaucoup liée à l'arrivée des nouvelles technologies. Hein. Ça a changé complètement le rapport au travail. Et je passe sur des groupes où j'ai travaillé ou dans des maisons de retraite. Vous avez des personnes qui disent, mais nous, on aimerait bien pouvoir voir notre mère pour voir si ça se passe bien, donc une caméra dans la pièce où elle est, ou des parents qui mettent leurs enfants à la garderie, qui disent on aimerait bien qu'il y ait des caméras pour voir si ça se passe bien avec notre enfant, etc. Et donc la technique fait intervenir de nouvelles questions qui peuvent devenir problématiques. Et sur cette question du téléphone, il y a aussi la remarque d'une mère qui disait en achetant un téléphone à mes enfants trop jeunes, c'est comme si j'avais remis le cordon ombilical, en fait. Hein. Donc voilà, faut aussi les laisser. Il faut laisser les laisser vivre. Donc, il y a toute une tension parce qu'il y a une pression énorme. Hein, quand je discute, mais les miens sont plus grands, mais quand je discute avec des amis qui ont des enfants plus petits, il y a une pression énorme de la société pour que les enfants l'aient de plus en plus tôt. Donc, on voit ce que ça veut dire aussi parce que quand on parle de fragilité, c'est-à-dire que c'est aussi dans le domaine de la structuration de la personne de l'enfant. C'est-à-dire que dans une période où l'enfant revenait de l'école et arrivait dans un lieu sanctuarisé qui était le lieu de la famille, de la maison, où il n'avait de contact avec ses enfants, avec ses amis ou ses petits copains que le lendemain. Là, à tout moment, il peut être connecté avec son téléphone. Même maintenant, ils sont très jeunes, ils sont avec le téléphone. Et donc, il y a plus la médiation de l'adulte. Quand l'enfant téléphonait, il téléphonait sur le fixe, le parent disait, oui, je vais te le passer, il est là. Il n'y a plus cette médiation-là. Il y a un passage direct de l'enfant à l'enfant. Et ça, cette absence de la médiation de l'adulte peut être problématique. Alors on dit, on va filtrer, on va donner seulement 1 heure de téléphone, etc. Sauf que le petit copain qui, lui, a un forfait illimité, il appelle, et puis voilà. Et puis ça veut dire segmentation du temps, donc segmentation de la capacité d'attention. Et puis ça veut dire aussi, je peux téléphoner à minuit, je peux téléphoner à 4 heures du matin, etc. Donc ça aussi, ce sont des questions qui peuvent parfois contribuer à fragiliser aussi les enfants et donner des adultes peut-être plus fragile si on n'y est pas vigilant, tout du moins, hein, me semble-t il.
Je sais pas, par toutes les formes d'art, s'intéresser, j'en sais rien, monde vous rende complètement passif si vous y cédez. On envoie un mail, on a l'impression, le téléphone sonne, ben, on a l'impression qu'on est vraiment indispensable à l'autre, et, alors que c'est totalement faux. Enfin, ce sont des choses qu'on s'invente finalement, je pense. On se croit vraiment indispensable, le téléphone sonne, on doit y répondre, les mails, il faut qu'on y réponde, etc. Et alors que voilà, il est urgent d'attendre, moi je dirais, et s'ouvrir plus, se poser des questions, prendre un peu de recul sur les choses, se poser vraiment et être actif, acteur de sa vie. Je crois que c'est peut-être une solution, et non plus rester sous une emprise, aussi bien au niveau professionnel, on le voit tous, que même au niveau social, quoi. Vous voyez, sortir, par exemple, ce soir, assister à une conférence, peut-être qu'on y assiste, enfin, peut-être que ce soir, bah voilà, c'est peut-être une solution pour ne pas rester devant un poste de télé, par exemple, qui va vous envoyer que des images. Et comment est-ce que... moi, je m'interroge, enfin, j'ai beaucoup lu Kant et j'aime beaucoup les psychologies de l'enfant, justement. Et aujourd'hui, un enfant se construit effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une image, sur une multitude d'images. Et alors que c'est vrai que la lecture, par exemple, serait vraiment une solution pour créer l'imaginaire, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, le conte, etc. On envoie l'esprit vers une création. On imagine, quand on lit un livre, par exemple, on imagine la scène, on imagine les personnages, on imagine plein de choses, on imagine, voilà, si je vous dis, par exemple, vous êtes au bord de l'eau, etc. Donc chacun va avoir son image de la mer. Vous voyez?
Oui, exactement.
Tandis que quand vous voyez un film, ben, voilà, on rabâche toujours les mêmes séries. Les... Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'appétissement, on va dire, de l'individu pour le pousser justement à être complètement dénué de toute réflexion et de toute remise en question, de conditionner finalement l'être humain? Est-ce que c'est pas aussi une volonté délibérée pour plus qu'on ait d'esprit critique et
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Moi, je suis complètement d'accord. Je pensais, alors je ne sais pas par quel bout prendre les choses, mais je pensais au président, c'est très bien, au président d'une chaîne de télévision qui avait dit qu'en gros, son métier, c'était de permettre de préparer des cerveaux, que les cerveaux soient disponibles pour pouvoir vendre de la publicité de tel ou tel produit. Donc on voit bien quand même que c'est étonnant qu'on ait accepté tous, d'une certaine façon, la segmentation des films, parce que l'accès à la culture, aussi à la télévision, il peut y avoir quelquefois des films, des grands films qui passent, et qu'on accepte, je ne sais pas, que La Liste de Schindler, par exemple, ou tel film, voilà, on segmente de la publicité. Ça paraît évident comme ça qu'on nous passe régulièrement des choses pour vendre, en fait, hein, et en ciblant justement souvent les enfants. Et ce qui manque justement, c'est certainement de tirer les gens vers le haut. Et en effet, en sortant alors des espaces comme ça de conférences pour échanger, mais aussi de musique, de théâtre, moi j'aime beaucoup Pippo Del Bono, par exemple, qui fait du théâtre avec des personnes qui sont un peu à la marge. Alors, une personne qu'il a rencontrée dans un asile psychiatrique, qui a été pendant 40 ans en psychiatrie, et puis qui est sourd et muet, et qui fait faire du théâtre, quelqu'un qui était à la rue, quelqu'un, un monsieur qui est trisomique, etc. Et il fait du théâtre en décloisonnant, justement, c'est où le normal, où est le pathologique, etc. Et en redonnant la place à chacun, et même des personnes extrêmement fragiles dans la société peuvent apporter quelque chose. Et donc, je crois que là, c'est vraiment l'accès à la culture, le théâtre, la musique, etc. C'est vraiment des choses qui doivent tirer. Oui, je vous en prie.
Je comprends. Il y a plusieurs années, à l'école, surtout chez les enfants, il y avait des cours d'éveil. Et je trouve que ça portait bien son nom. Parce que je trouve qu'il y a une initiation aux choses, comme, j'en sais rien, à la danse contemporaine ou à l'art contemporain. Il faut que les enfants, dès le plus jeune âge, soient initiés à l'éveil culturel, quel qu'il soit. Parce que on ne peut pas donner plus tard ce qu'on n'a pas reçu, psychologiquement parlant, mais plus même de façon de tous les jours. Et je trouve que cette ouverture.
Sur cette question-là, il y a aussi tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la captation de l'attention. C'est-à-dire que c'est une difficulté qu'on peut rencontrer quand on discute avec des enseignants en maternelle ou d'ailleurs à tous les niveaux, au collège, etc. Parce que les étudiants sont plus calmes, ils ont leur ordinateur ouvert et puis ils font ce qu'ils veulent d'une certaine façon. Bon, pas tous, hein, mais ça arrive aussi. Et même les adultes, d'ailleurs, qui dans des réunions vont aussi fonctionner comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une segmentation de l'attention qui est liée au portable, qui est liée à l'informatique, etc. Et dans une société qui déstructure un peu la capacité d'attention, on a d'autant plus besoin d'espace où on est attentif aux enfants. Prendre du temps pour raconter une histoire à un enfant, ce n'est pas perdre du temps, c'est vraiment lui donner une structuration de capacité d'attention qui va lui servir toute la vie. Non seulement une capacité d'attention au sens cognitif, mais aussi au sens éthique du terme, c'est-à-dire comment je suis attentif aux autres. Et je vois que si vous vous promenez dans les transports en public et vous voyez les transports en commun, vous voyez comment finalement c'est toujours plus intéressant ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire ma communauté d'élection, ma communauté affective. Je vois qu'on perd quelque chose parfois de la civilité, tout simplement. Il y a une personne un peu âgée qui a du mal à monter sa valise, je suis dans le train, mais je suis quand même en train de répondre et je ne vois pas cette personne-là. Donc il y a aussi une vigilance, je dirais, dans des pratiques tout simples d'utilisation d'outils qui sont formidables et dont on a besoin aussi parce qu'on est relié, c'est normal. Mais en même temps, quelles pratiques on met en place pour ne pas oublier, je dirais, le territoire où on se trouve avec des personnes qui sont autour de soi, quoi, en fait. Captation de l'attention, ça c'est quand même une vraie question.
Disent toutes qu'il n'y a pas de subjectivité, que le sujet c'est une illusion, que les philosophies du sujet quoi, sont en crise très largement. Et ce que je constate, je suis personnellement dans l'entreprise, moi, de mon côté, avec une casquette de philosophe de formation en plus, je constate que dans l'entreprise, c'est le surinvestissement de la question du sujet. C'est le sujet performant, enfin, c'est pas le sujet justement, mais c'est l'individu. Celui qui va potentiellement se dépasser plutôt que s'accomplir, comme dit Isabelle Keval dans le sport. Elle dit, voilà, on est dans une société où on ne cherche plus à s'accomplir nous-mêmes tel que l'on est, tel qu'on pourrait être, mais on cherche à se dépasser, à aller toujours au dépassement de soi. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sujet, et donc j'ai l'impression qu'il y a une question qui se pose sur le rôle, en fait, notre rôle, en fait, d'intellectuel, de sciences humaines et sociales. Inconsciemment, on a tous l'idée que on n'est pas quelqu'un. Enfin, les sciences humaines et sociales ne portent plus cette idée. Peut-être qu'elles l'ont jamais portée. C'est là que je ne mets pas beaucoup de lumière à ce que je suis en train de dire. Il n'y a que le domaine du privé au sens du domaine d'entreprise, pas d'intime. Le domaine du business, le domaine associatif, mais même qui, j'ai l'impression qu'il va au-delà du business, parce que ça se retrouve dans le sport, en tout cas, il devient aussi un business. Il n'y a que ces endroits-là, ces médiations-là, on nous dit en fait, tu es flexible, manière arrêtée. Donc, t'as qu'à te dépasser. T'es pas un sujet. Donc, conclusion, tu n'es qu'une ressource qui doit être performante et qui doit se performer. Vous voyez ? Et donc, en fait, ça montre tout ce champ-là de questions avec Kadulara. Est-ce qu'il n'y a pas un champ d'investigation du côté de la vulnérabilisation dont vous parlez, qui me parle complètement, mais enfin, je trouve que votre analyse est très très pertinente et très claire. Mais je me dis, est-ce qu'il y a un truc à rajouter du côté du rôle des sciences humaines et sociales dans ce processus de vulnérabilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'individu, parce que j'ai plutôt tendance à appeler personne. Mais voilà, enfin, je ne sais pas, individu, personne, soit...
Oui, c'est ça. Ça demanderait une petite heure pour bien saisir exactement ce que vous voulez dire, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais, toute une philosophie des années 60-70, par exemple, structuralisme, etc., qui mettait en crise le sujet et qui, en gros, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec tous ces débats-là, c'est-à-dire qu'on est tellement conditionné par l'éducation, par la culture à laquelle on appartient, que par les structures économiques, etc., que finalement, on parle d'un moi, mais c'est une pure illusion, hein, comme disait Claude Lévi-Strauss, cet enfant gâté de la philosophie, parce que finalement, on se marie avec telle personne parce qu'on est du même milieu, parce que les vêtements que cette personne-là porte correspondent à des couleurs qui correspondent aux miennes, etc., et que finalement, il y a beaucoup d'inconscient là-dedans et qu'on n'est pas très, très clair. Alors, donc, il y a ce courant-là. Et puis, il y a aussi la question de tout ce qui a été analysé par les sociologues ces dernières années sur l'individu vulnérable quand même. Hein, parce qu'on pourrait citer Alain Ehrenberg, on pourrait citer Lipovetsky, etc., qui montre aussi. Alors là, il y a une réflexion quand même par rapport à ça. Alors la difficulté, c'est quand on distingue, est-ce qu'il faut distinguer l'individu, le sujet, la personne, par exemple. Hein. Bon, alors là, ça demanderait beaucoup plus de temps. En effet, il y a les courants aussi d'hypersonnalistes qui distinguent, ils disent l'individu. Bon, c'est comme une sorte d'atome, alors que la personne, au contraire, c'est à la fois la liberté, c'est à la fois la capacité de dépassement, c'est le corps et c'est la communication. C'est-à-dire qu'une personne est forcément en relation avec d'autres. Et quand un des quatre points est atteint, la personne est atteinte aussi, voire dans sa dignité ou au niveau de la vulnérabilité. Mais petite expérience, et je ne veux pas être trop long parce qu'on nous a dit que c'était la dernière question, mais petite expérience que j'ai faite avec des enfants pendant 2 ans de faire de la philosophie, et c'est vraiment passionnant parce qu'on s'aperçoit que là on a des... Excusez-moi, ça fait un moment que je parle depuis le début de la semaine. Pardon. Et là on s'aperçoit que... Il y a des potentialités, il y a des compétences. Alors, on peut croiser Shrek, par exemple. Vous connaissez ce dessin animé de l'ogre, etc. Bon, moi, j'ai travaillé avec eux là-dessus. Et après, on passait à Sartre parce que c'est une illustration du regard, de la phénoménologie du regard de Sartre, Shrek, parce qu'il n'est pas méchant. L'ogre, il joue à être méchant. Et pourquoi il joue à être méchant? Parce qu'il est réifié, finalement, par le regard de l'autre, etc. Donc, il y a plein d'outils dans la bande dessinée, dans les etc., pour tirer les enfants vers le haut. Et tout ce qui est publicité, tout ce qui est émission un peu, je dirais, de divertissement, les tire vers le bas. Les enfants, on parlait tout à l'heure de l'éveil. Vous avez évoqué ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a des enfants qui viennent, ils ont une heure et demie, 2 heures de télévision en arrivant en cours. Donc forcément, il y a déjà le cerveau qui a fait un petit lavage, si je puis dire, sur des choses qui ne sont pas forcément du côté du savoir et de la structuration. Donc là, il y a vraiment aussi comment on tire les individus vers le haut, vers la culture. Ça, moi, je crois beaucoup à sa culture, le rapport à l'art qui nous distancie, tout ce qui permet de nous construire comme sujet et non pas de nous enfermer dans des logiques un peu de consommation, etc., en fait. Mais il y a des leviers, il y a des personnes comme vous qui réagissez, donc je veux dire que là où vous êtes, vous pouvez aussi, bien sûr, impulser des choses, quoi. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup, merci à vous pour l'échange.